Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonjour et Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Raveli Lemel, comme chaque semaine, on va parcourir notre paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et donc on arrive là à celle qui s'appelle Shlach Lecha, et qui est très connue parce que très énigmatique. Le peuple juif envoie des espions, des explorateurs, envoie des personnes pour voir comment est la terre d'Israël avant d'entrer. Tout ça en conformité avec Moïse. C'est pas du tout une rébellion. Ils reviennent, ils disent ce qu'ils ont vu. Et c'est la catastrophe. Alors que, apparemment, pour des gens qui n'ont pas une grande érudition, ils n'ont rien fait d'incroyable, ils sont allés, ils avaient l'autorisation, ils sont revenus, cette paracha est très connue, ils disent ce qu'ils ont vu, que ça a l'air très dangereux. Et vous, vous voulez intervenir ce soir, Amélie Lemel, justement sur l'une des questions que pose ce texte, c'est comment est-ce qu'on arrive à retranscrire une situation quand finalement on est impliqué dans l'histoire. On a tous ça dans nos vies. On est sûr d'être le plus objectif du monde, mais le fait que nous, on soit un peu jugé parti, qu'on soit impliqué, fait que être objectif, en fait, nous dit cette paracha, c'est très difficile.
Exact. On est en effet dans une paracha dans laquelle, malheureusement, la problématique de la nogiout, c'est-à-dire de l'intérêt personnel, va générer cette catastrophe, puisque le clan d'Israël va donc rester dans le désert 40 ans. Et c'est seulement à l'issue de ces 40 ans, quand toute cette génération aura disparu, que l'histoire du peuple d'Israël recommencera, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils pourront arriver et s'installer à nouveau sur la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu cette explication. Au fond, ces 12 princes d'Israël, ce sont donc 12 personnalités. Rashi nous précise bien qu'ils sont anachim, c'est-à-dire des individus, traduction des tzadikim, des gens bien. Mais la difficulté qu'ils vont avoir, c'est une mauvaise lecture des événements auxquels ils vont être confrontés. C'est-à-dire, ils vont faire le constat qu'il y a une épidémie. Alors, première lecture possible, l'air est malsain. Seconde lecture, eh bien, quand il y a une épidémie, quand les gens sont occupés, ils ne font pas attention à des explorateurs potentiellement espions. Et ils vont voir des personnes extrêmement grandes et fortes et des villes fortifiées. Ils vont dire non seulement ils sont grands et forts, mais en plus ils sont dans des villes fortifiées. Alors que vous savez très bien que si vous êtes grand et fort, vous n'avez pas besoin d'être dans une ville fortifiée parce que vous êtes suffisamment fort. Donc si il faut mettre une ville des fortifications devant, c'est que sans doute on a peur. Ça c'est juste une parenthèse, mais le ghetto c'est le lieu de la peur pour ceux qui nous mettent dans le ghetto ou ceux que l'on met dans le ghetto. Quand on met les juifs dans le ghetto à Venise, c'est parce qu'au fond le juif fait peur, le juif interpelle, le juif bouleverse, le juif remet en cause. Quand on se met soi-même dans nos propres ghettos, c'est qu'au fond on n'est pas suffisamment construit pour se confronter au monde. Donc et ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est fondamental. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que justement, eh bien, cette lecture qui aurait pu tout changer, ils ne la font pas. Ils ne la font pas, pourquoi? Parce que justement, il y a cette notion de Nogiout, comme l'explique le Zohar. Eh bien, ils pressentent de manière inconsciente qu'ils vont à un moment, peut-être en entrant en Israël, ne plus avoir le poste et la fonction qui est le leur dans le désert. Et donc, ça joue un rôle dans la lecture qu'ils feront. C'est-à-dire, au grand jamais, ils auraient raconté des cracks, des histoires, en disant on a vu des choses alors qu'ils ne les ont pas vues, surtout pas. Mais l'interprétation qu'ils vont en faire, la lecture qu'ils vont en faire, eh bien, va induire le peuple d'Israël en erreur. Et à partir de cela, eh bien, on se retrouve dans cette spirale. Et ça, donc, c'est toute la problématique de la Nogiout. Ça va même plus loin d'Ilzoar, parce que pour certains, eh bien, ils prétextent même, et ils en sont sûrement convaincus, que rester dans le désert, c'est rester dans la proximité constante avec Dieu, avec Alors que être en Israël, ça sera plus complexe, parce que dans un pays dans lequel il va falloir faire tourner l'économie, un pays dans lequel il va falloir maintenant organiser les choses, le lien avec Dieu ne peut pas être du même type que celui qui aurait existé dans le désert. Et donc, au fond, c'est quelque chose qui s'entend, c'est quelque chose qui est très beau, mais c'est sous-tendu par quoi? Et donc, on a ici quelque chose d'extrêmement fin qui se joue, et on voit bien la conséquence qui va être présente. Alors, cette problématique de Nogiout, notre nous en parle, il dit Adam Karov et Tselatsmo, l'individu est proche de lui-même. Il y a un autre texte qui nous dit Kolan Nogaim Adam Perkus Midigasmo. Lorsque l'on doit examiner, vous savez, ces fameuses plaies qui laissaient penser qu'une personne avait fait du lachonara, de la médisance, eh bien, le prêtre qui était censé examiner les personnes qui étaient porteurs de ces affections de la peau, on disait qu'il pouvait voir celles de tout le monde, sauf les siennes. Pourquoi ? Parce que quand on voit les siennes, eh bien, on n'aura peut-être pas nécessairement le regard. Pourtant, c'est un spécialiste, mais malgré tout. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il dira qu'il est pur. Il risque peut-être parfois aussi d'avoir un regard biaisé, d'avoir une vision négative de lui-même et déclarer des choses négatives le concernant alors qu'elles ne le sont pas. En tout état de cause, on voit bien ici l'enjeu donc de la nudité. Alors, la question est de savoir comment on fait pour s'en sortir. Est-ce qu'il y a une manière de travailler pour ne pas tomber dans cette nudité? Alors ici, bien sûr, il y a deux personnages parmi les 12 qui, eux, vont réussir justement à ne pas tomber dans ce piège. C'est Yoshua et Caleb. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour mieux percevoir ça, on va aller ouvrir Midrash, qui nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit que il n'y a pas eu d'individus qui sont partis pour remplir une mission, une mitzvah, comme les deux explorateurs que va envoyer Josué. À quoi fait-il allusion ce Midrash ? Eh bien, vous savez que le peuple d'Israël donc, va rester dans le désert 40 ans, suite à cette histoire, mais après il va rentrer. Et qui va le conduire à ce moment-là, c'est Josué et Yoshua, l'élève de Moshe. Et Yoshua va de nouveau envoyer des explorateurs. Et le Midrash nous dit, mais cela, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas mieux que ça. Et d'ailleurs, ces deux explorateurs-là, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi justement ils sont exceptionnels. Alors, c'est qui? C'est Pinchas et c'est Caleb. Et le texte nous dit qu'ils se sont donnés à fond pour leur mission. Très bien. Et comment? Et c'est là où c'est intéressant de voir que la stratégie qu'ils avaient utilisée pour pouvoir passer inaperçu en terre d'Israël, dit le texte, eh bien, Shnei Manashim Meraglim Cheresh. Deux explorateurs sont arrivés là-bas, Cheresh. Ça veut dire quoi, Cheresh? Alors, les maîtres du Talmud font l'homonymie entre Cheresh, Cheres, et disent Cheresh, c'est la glaise. La stratégie qu'avaient utilisée donc les deux explorateurs de l'époque de Josué, c'était de se faire passer pour des marchands de cruches, des marchands de poteries, des poteries qui sont faites en argile. Et donc, ils étaient là avec leurs marchandises. Donc voilà, nous avons ici deux aimables potiers qui sont là, qui vendent leurs marchandises et qui donc parcourent le pays. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent explorer. Mais le Chidush Harim, pose la question suivante. Le Chidush Harim, c'est dans la lignée de la Chassidut Gour. Le Chidush Harim dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi la Torah, pas ici la Torah, pourquoi Josué, puisque c'est dans les choses, on a besoin de préciser, ça a été quoi la stratégie? Ben, ils sont partis, et ils ont exploré. Comment ils se sont débrouillés, c'est leur problème. Or, ici, on le précise, ils sont vendeurs de cruches. Et ce qui est très intéressant, vous savez, c'est que les cruches en argile ont une particularité. C'est quoi? Vous savez que tout objet, lorsqu'il devient impur, eh bien, peut être purifié. On peut le faire revenir à son état originel. Mais en ce qui concerne l'argile, eh bien non, on ne peut d'aucune manière le purifier et à ce moment-là, il faut le briser. Traduit de manière différente, l'ustensile en argile n'a pas de valeur en tant que tel. Il ne représente rien. Sa seule fonction, c'est de remplir sa fonction. C'est-à-dire, il est là pour pouvoir être rempli de liquide, être rempli de nourriture. Et c'est pour cela qu'il est là. Mais en dehors de sa fonction, il n'a aucune valeur. Et on le voit, entre autres, dans les lois de pureté et d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle ils se font passer pour cela, c'est-à-dire une forme de clin d'œil et d'allusion qui nous dit, au fond, pourquoi est-ce qu'ils réussissent dans leur mission ? Parce qu'ils se sont mis à l'image de ces ustensiles en argile. C'est-à-dire, ils ne se sont pas vus exister pour eux-mêmes d'aucune manière. Ils se sont juste occupés de la mission qui était la leur. Et ça, évidemment, c'est un vrai travail. Comment est-ce que l'on fait pour réussir à n'exister qu'à travers sa mission et mettre de côté pleinement, totalement, complètement, toute forme d'intérêt personnel ? Eh bien, voyons, voilà, c'est très simple. Eh bien, on va voir que on a ici Moshe qui va prier pour Josué et Caleb qui va partir au moment où il part avec les 12 explorateurs. En premier lieu, il va où ? Il va à Hébron. Il va à l'endroit dans lequel sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'il est parti là-bas prier parce qu'il savait très bien qu'il pouvait y avoir chez lui quelque chose qui était du domaine de l'intérêt personnel, qui pourrait à un moment, de manière inconsciente, l'amener à voir les choses différemment. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il prie parce qu'il se méfie de lui-même. Il sait très bien que certaines choses, on ne les perçoit pas, mais elles sont quand même bien présentes. Et donc, au fond, qu'est-ce que ça nous amène à penser ? Tout d'abord, lorsque l'on sait que ce sont nos intérêts qui sont présents dans des choix, dans des lectures, dans des décisions, alors le dire, ou au moins se le dire à soi-même. Et après, être à l'écoute de la parole d'un tiers qui parfois va nous amener à voir les choses différemment. Je vais vous raconter une histoire personnelle, je ne le fais jamais, mais je vais vous la raconter. Quelques années, j'étais un Shabbat à Londres, et puis j'entends qu'une structure à laquelle on est affilié à Paris va faire une réunion qui était non prévue, mais pas à Paris, à Marseille, et c'est lundi, il faut absolument que j'y sois. Il faut que je change mes billets, mais ça coûtait plus cher. Alors moi, évidemment, je me dis, bon ben, c'est pour le travail, c'est à la structure de payer. Et j'ai appelé un maître qui m'a dit, mais je ne comprends pas. Il m'a dit, toi, lundi matin, tu es censé être à ton travail. Alors si tu as décidé maintenant de venir le week-end d'avant ailleurs, c'est ton problème. Et au fond, une fois qu'il me l'a dit, mais c'était évident. Seulement le problème, c'est que on a un petit intérêt là-dedans. C'est quoi ? Ben, c'est ici, en l'occurrence, mon portefeuille. Et quelque part, on pense qu'on est complètement droit et on est sûr qu'au fond, c'est comme ça qu'il faut penser, alors que cet intérêt personnel fait qu'on va voir les choses légèrement différemment. Ça nous arrive à toutes et à tous. Et c'est la raison pour laquelle on doit prier. On doit prier pour être sûr qu'il n'y a pas cela dans les décisions que l'on prend. Et surtout demander à Hachem, donne-nous la force d'être exclusivement tes shlichim, exclusivement ceux qui sont là pour servir la mission que tu nous as assignée sur terre. Ce n'est pas simple. Évidemment, on a tous, moi en tête, des problématiques de neguiot, d'intérêt personnel. L'idée, c'est de savoir que, eh bien, ça peut parfois amener à des lectures qui peuvent générer des choses beaucoup plus lourdes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au-delà de cette fila nécessaire, il est peut-être parfois important d'avoir des maîtres vers lesquels on se tourne et qui, parce qu'ils ont cette distance, vont peut-être nous faire remarquer avec finesse, avec intelligence, que là peut-être, il y a quelque chose d'un peu plus personnel qui a joué dans notre raisonnement. C'est comme cela qu'on avance, c'est comme cela que l'on progresse. En tout cas, c'est entre autres une des leçons que cette paracha est en train de nous donner.
J'ai pensé 300 000 choses en vous écoutant, Ravelli Lemel. Et peut-être la chose la plus proéminente, c'est que je crois que c'est quasiment infaisable ce que vous nous proposez. Évidemment, je vous interpelle, hein, je vous interpelle, je vous pose la question. À part dire sa vérité, je crois que dire la vérité, c'est infaisable pour un être humain. À moins d'être Moshe Rabbeinu, je peux dire ma vérité. Et ce qu'on me demande à moi, c'est d'être sincère et honnête, quoi. Mais par rapport à ma vérité, je suis pas capable de faire autre. D'après moi, en vous écoutant, je vous promets, j'ai entendu 100 000 choses. Vous savez que c'est le problème aussi des acteurs. Un acteur, il y a deux écoles. Un acteur, on lui dit, ben, joue. Et par exemple, De Niro, il a répondu, il a dit, mais on peut pas jouer autre chose que ce qu'on est. Je peux pas jouer, me dites pas ça. Je peux juste être De Niro dans cette situation. Ça, je peux le faire. Mais Mais voilà, je sais pas, voilà, je vous interpelle, Rav Eliomel.
C'est vrai, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle la Torah ne nous demande pas d'être vrai. Elle nous demande de nous éloigner du mensonge. Midvar sheker tirhak, c'est-à-dire d'être au maximum le plus éloigné de quelque chose qui s'appelle le mensonge, ne pas se mentir à soi-même. Vous avez raison. Mais en même temps, si le texte nous le dit, c'est que quelque part, on a sans doute quelque chose à faire dans ce domaine.
Ah ouais. Alors, si par contre, on ne cherche même pas, alors c'est sûr que j'ai compris. C'est un effort. C'est un effort. Enfin, on tend vers ça, j'ai compris. Rav Eliomel, je vous remercie. Et plein de bonnes choses à réfléchir dès ce soir. Et je vous remercie donc. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Rav Mordechai Biton, on continue le survol de notre paracha avec vous cette semaine. Et alors vous, vous voulez développer une réflexion sur la vision, la vue, le regard, le raisonnement qu'on peut tenir suite à ce qu'on a vu. Est-ce que regarder, c'est encore un autre... notre façon de s'exprimer, puisque en fait, bah, cette paracha des explorateurs tourne autour de cette idée.
Oui, effectivement, mon cher Bernard, un des points les plus centraux de cette paracha, c'est finalement la vision. La vision d'une situation, la vision d'un événement, la vision des individus, la vision de la vie d'une manière générale. Et ça se retrouve à tous les carrefours de cette paracha. Moshé Rabbeinu demande aux explorateurs donc d'aller explorer la terre. Il leur demande d'aller regarder ce qui s'y passe. Ils vont arriver là-bas et ils vont constater, par exemple, qu'il y a beaucoup d'enterrements. Au lieu de voir la Seta d'Ishmaïa, l'aide du ciel, qui fait que maintenant ils passent inaperçus, on ne s'intéresse pas à eux, ils peuvent passer au milieu des villes qui sont occupées, enterrées des morts, ils vont voir finalement la mort et la désolation. Cette terre, elle mange ses habitants. Puis ensuite, après, par exemple, dans le rapport qu'ils vont faire, ils vont dire une phrase qui est absolument terrible, au chapitre 13, au verset 33. Il dit « On a vu des géants là-bas, on a vu, avec nos yeux, on a vu des géants. » Et ces géants-là, font partie des Néphilim, ce sont des gens, des anges déchus de l'époque, donc de l'époque des anges déchus. Et alors, il y a une phrase qui est terrible. Ils disent la chose suivante. Vanei benenu kechayavim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Vechelaïdu benem. Et donc, ainsi, nous étions à leurs yeux. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on s'est vu petit. On s'est vu complètement réduit. On s'est vu complètement, d'une certaine manière, amoindri. Eh bien, eux aussi nous ont vus comme ça. Et donc, la manière dont on s'est regardé, elle a en quelque sorte imprimé chez les gens qui nous ont vus, eh bien, cette même conscience. En fait, tout ça, c'est de l'imaginaire. Qui leur a dit à ces gens-là que là-bas, on les a vus comme des petits? Alors, effectivement, ils ont entendu là-bas les gens, c'est ce que Rashi va rapporter. Il va dire, ce qui s'est passé là-bas, c'est que les gens disaient, il y a des fourmis qui ont des formes humaines. Mais au fond, dans ce verset, ce qu'il nous est dit, c'est que, étant donné qu'eux se sont vus petits et fragiles, eh ben effectivement, les gens qui étaient, ils ont imprimé dans leur conscience la possibilité d'un regard extérieur qui sera un regard qui les verrait eux aussi petits et minables. Puis ensuite, après, ça va complètement dégénérer parce que cette conscience négative qu'ils ont à leur égard, c'est une conscience qu'ils vont transporter cette fois-ci à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous savez, les gens qui sont là-bas, ils sont tellement forts qu'ils sont même plus forts que Dieu lui-même. Chazak Mimenu, ils sont même plus forts qu'Aviachol, en quelque sorte, que Dieu lui-même. C'est-à-dire que, étant incapable même de se voir fort, de se voir grand, de se voir tzaddik, de se voir juste, de se voir capable de mériter Eretz Israël, de mériter la considération, ben ils vont en arriver à voir le monde entier comme étant un monde qui manque de considération. Et Dieu lui-même manque de considération et de force. Donc tout le monde manque de force. Last but not least, si vous transportez vers la fin de la paracha, vous verrez qu'apparaît la mitzvah de tzitzit. La mitzvah, donc, quand on porte un vêtement à quatre coins, de l'ordre et de franges, qu'on appelle les tzitzit. Le mot tzitzit, ces fameuses franges qu'on accroche à nos vêtements à quatre coins, c'est bien du mot matzitz, regardez, qui fait référence, en fait, au regard d'Akadosh Baruch Hu. Matzitz, minacharakim, Akadosh Baruch Hu nous voit à partir des fentes. Il nous observe à partir des fentes. Et en fait, les tzitzit, la mitzvah de tzitzit, permet d'observer. Elle permet d'observer le monde d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, à une certaine époque, avant, donc, il y avait un fil bleu dans les tzitzit. Et ce fil bleu, il rappelait la mer rappelait le ciel, et le ciel rappelait le trône de gloire, le Kisei Kavod. L'idée ici, elle était très simple, elle était de regarder le monde en sachant qu'il exprime la volonté d'Hachem, la volonté du Créateur. Le monde n'est pas fortuit. Le monde n'est pas dû au hasard, le monde ne s'est pas créé par lui-même, il n'est pas sa propre cause, il a été créé par le Créateur, il est animé par le Créateur, il est animé d'en haut. Et donc regarder les phénomènes naturels de manière graduelle, en arrivant à la cause de la cause, qui est la cause première, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu lui-même. Et donc toute cette paracha, en fait, ne parle que d'une seule chose. Le fond de l'histoire, c'est regarder. Comment je regarde? Comment je regarde ma vie? Comment je regarde le monde? Comment je me vois? Comment je vois le monde? Comment je vois ce qui se passe autour de moi? Là où certains, comme les explorateurs, vont voir une catastrophe, d'autres auraient vu la main d'Hachem qui finalement les couvrait. Et là, on peut parfaitement élargir le propos, parce que cet enseignement ici, qui est comme toujours, comme disait le Ramban Nachmani dans la traduction de son commentaire, il dit « La Torah habille des enseignements fondamentaux dans des histoires ». Non pas qu'elle raconte des mythes, pas du tout, Chas v'Shalom, elle raconte des histoires, des vraies histoires, l'histoire des Meraglim, l'histoire des explorateurs a effectivement eu lieu, mais au travers de l'histoire telle qu'elle nous est racontée, c'est un yesod, c'est un concept fondamental de notre vie, nécessaire à notre vie, à une vie agréable, à une vie juste, à une vie remplie de mitzvot, remplie de joie, mais ici un yesod, ici un concept fondamental. En fait, l'homme doit comprendre que ses yeux, en fait, c'est la fenêtre de l'âme. Vous savez que dans le visage, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la bouche, P, la bouche en hébreu, c'est aussi peau, ici, c'est ce monde-là. Par la bouche, on mange, on boit, on embrasse, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a le nez, c'est l'odorat, c'est déjà plus fin. Et puis il y a les yeux. Les yeux, c'est la neshama, c'est la fenêtre de la neshama. En fait, les informations qu'on rentre en nous par le regard, sont des informations qui s'impriment dans notre cerveau, et elles impriment aussi un certain nombre d'émotions. Et donc en fait, ce qui nous est demandé dans la Torah, c'est pour ça que la paracha ici va se terminer par la mitzvah de Tzitzit, c'est en fait de nous éduquer à regarder le monde. C'est pas seulement à garder nos yeux, parce que c'est ce qui apparaît dans la paracha, c'est de se garder, l'otaturo acharenechem, arrêtez de laisser vos yeux se promener dans des sites immondes, sur vos smartphones, sur vos téléphones, et à droite, à gauche, arrêtez d'emmagasiner, parfois même à votre insu, des milliers d'informations qui sont des informations qui vous détruisent. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un spécialiste des réseaux sociaux qui m'expliquait que TikTok, par exemple, est un réseau complètement débile en Occident, qui débilite des populations entières. Par contre, en Chine, et c'est TikTok qui a été conçu par les Chinois, en Chine, sur TikTok, on fait passer des choses très intelligentes. Des vidéos qui sont très courtes, mais qui sont très intelligentes. Donc les Chinois, qui sont des gens qui ont une stratégie, très agressive vis-à-vis du monde, par exemple, ont conçu un outil, TikTok, pour nous rendre tous complètement débiles, faire de nous vraiment des débiles mentaux, en nous poussant à regarder, encore une fois, toute la journée, donc des informations débiles, des petites vidéos idiotes, des choses complètement stupides, et à se remplir, comme ça, les yeux, et en fait le cerveau, et en fait les neurones, et en fait l'âme, et en fait le psychisme, et l'esprit, et le corps, finalement, d'idiotie. Alors qu'en Chine, c'est autre chose. TikTok sert, par exemple, à véhiculer des choses beaucoup plus intelligentes. Alors c'est très intéressant parce qu'on vit aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux et dans le monde de ce que l'on regarde. Et ce que l'on regarde est toujours accompagné de bruit, de couleurs. Et on sait, par exemple, que dans la communication visuelle, près de 75% du message passe d'abord par le ton de la voix ou par les couleurs, et pas seulement par le message lui-même. Donc on voit l'importance des yeux. De ce qu'on dit, par exemple, une personne qui est en colère, c'est interdit de la regarder. Parce qu'elle est complètement tamée, elle est complètement impure, et elle peut imprégner chez nous son impureté. Une personne qui a de très mauvaises mœurs, c'est une personne qu'il ne faut pas regarder. On imprime des choses chez nous. La même chose, une personne qui passait au Beth Amikdash, au temple, au moment de la cérémonie de la Sota, devait faire un vœu de Naziré, hein, d'après nos sages, il devait faire attention à gérer sa vie avec plus de tempérance. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu un spectacle qui était un spectacle dégradant. Autrement dit, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce que l'on regarde, pas forcément ce que l'on voit, on se promène dans le monde, on voit des choses, mais ce que l'on regarde, ce sur quoi on porte notre intérêt, ce sur quoi on dirige notre regard, en fait, on dirige une capacité d'impression sur l'âme, ce qui nous est dit ici. Et donc, en fait, nos yeux sont en fait un véhicule d'impression. Et ces impressions, elles s'impriment dans le cerveau et elles s'impriment sur l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, On doit avoir chez soi des photos de tzadikim, voire des visages de tzadikim, en quelque sorte pour s'imprégner simplement de la plastique du visage, de la plastique du visage des tzadikim, avant évidemment de pouvoir s'imprégner de leur enseignement. Donc on est ici vraiment au cœur d'une problématique complètement fondamentale, et c'est intéressant parce qu'en fait le Sefer Bamidbar, le livre de Bamidbar, le livre des nombres, et finalement, le recensement de toutes les bêtises qu'il faut faire pour détruire Am Israël ou pour se détruire sur le plan individuel, et en même temps, le par contre-coup, et également l'énoncé finalement de ce sur quoi il faut faire, sur quoi il faut porter son attention pour pouvoir se construire. Garder ses yeux, faire attention à ce qu'on regarde, regarder de belles choses, voir de belles choses. Par exemple, quand on étudie, regarder les lettres de la Torah, Otiot, Markimot, les lettres, et ben elles donnent de la chorma, elles donnent de la sagesse. Les lettres sont une plongée dans l'infini. Par exemple, vous regardez la lettre Aleph. La lettre Aleph s'écrit aussi Aleph, Aleph Lamed P. Mais le Aleph du mot Aleph s'écrit aussi Aleph Lamed P. Et le Aleph de ce Aleph aussi s'écrit Aleph Lamed P. Donc regardez le Aleph, Bet, Gimel, les lettres de l'alphabet, c'est plongé en fait dans l'infini. Voilà, il faut savoir aussi que la Torah accorde une très grande place à l'esthétique. Shabbat, la table de Shabbat doit être belle. Chacun doit être paré de ses plus beaux atours. Une femme se fait belle, un homme se fait beau. Les gens se font beaux, ils sont agréables physiquement, plastiquement, l'un à l'autre, et la Torah accorde une très très grande importance à la beauté plastique, parce qu'à partir du moment où elle est utilisée pour rapprocher les gens, pour le shalom, pour la concorde entre le mari et la femme, pour que la maison soit agréable, chaude, accueillante, et bien effectivement on est au cœur du sujet. La Torah ne rejette pas du tout l'esthétique, elle veut que nous vivions dans un environnement agréable, et que cet environnement agréable, et bien, attire nos yeux, attire notre regard, et nous permette donc de construire notre âme dans un contexte qui soit un contexte agréable. Le Beth Amikdash, c'était un édifice magnifique, et on venait au Beth Amikdash pour voir la beauté également du Beth Amikdash, et s'imprégner de la spiritualité qu'il y avait aussi dans cette beauté. Voilà une réflexion sur le sujet. Je crois qu'on est avec cette réflexion-là qu'au début du sujet. J'invite à chacun, ce Shabbat, à se pencher sur ce phénomène.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, vous dites à la semaine prochaine.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors les textes nous disent que, en fait, Hachem, le ciel, nous a répondu après ce terrible épisode des explorateurs et de la réponse qui n'était pas attendue. En gros, les textes nous disent, vous avez pleuré pour rien. Vous aviez une terre magnifique que je vous donnais, je vous ai juste demandé d'aller la regarder, vous la critiquez, et bien vous allez pleurer pour de vrai. Et ça a provoqué la destruction des deux temples, premier, deuxième. Ce qui pose deux questions. La première, c'est que pourquoi c'est nous, qui ne sommes pas les explorateurs, qui payons ? On n'a rien fait, nous.
Exactement.
Alors voilà, on va déjà commencer par cette première question.
Alors, je voudrais rappeler un peu les choses. Donc on a une Gemara dans Ta'anit, page 29 d'Afraftet, qui dit la chose suivante. Vatissa kol ha'eda et kolam va'yivku ba'layla ha'hu. Toute l'assemblée leva donc la voix, c'est-à-dire commença à pleurer cette nuit-là. Cette nuit-là, nous dit la Gemara, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et dit Amar Hakadosh Baruch Hu, atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit, chia shel chinam. Ani kovea lachem bechia le dorot. Et moi, je fixerai pour vous. Je vous imposerai un pleur pour les générations. De quel pleur il s'agit ? La destruction du premier et du second temple qui ont eu lieu à Tisha B'Av, le 9 Av. Alors, normalement, la compréhension première de ce texte, c'est de dire « Je vous punis, vous avez fauté, vous serez punis d'une façon exemplaire par la fin, la destruction du Beth Amikdash, du temple. » Mais ce n'est pas l'explication que donne le Maharsha. Maharsha, dans la Gemara, dans Ta'anit, nous dit non, il ne s'agit pas d'une sanction, mais il s'agit d'une conséquence. Parce que vous avez pleuré à l'époque des explorateurs, il y a une conséquence, vous allez pleurer au moment de la destruction du premier et deuxième temple. Et ça, c'est pas très compréhensible en quoi il y a une conséquence. Je vous rappelle simplement déjà que, par exemple, le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, sinat chinam, la haine gratuite qu'il y avait entre nous. Et quel rapport y a-t-il entre cette haine gratuite et le fait que nous étions devant Eretz Israël, Eretz Kenan, et que nous avons perdu l'espoir, perdu tout le courage, nous avons dit nous ne sommes trop petits, ils sont des géants, nous sommes comme des sauterelles, enfin nous sommes rien du tout, et nous ne pourrons pas y entrer. C'est un manque de bitachon, un manque de confiance en Dieu. Et là, il s'agit d'un problème relationnel au moment de la destruction du Beth Amikdash. Donc il n'y a absolument aucun rapport, a priori, entre les deux. Et là, je voudrais vraiment que vous écoutiez bien. Je vais vous donner un commentaire de Rashi. Mais Rashi se trouve non pas dans la paracha d'aujourd'hui, mais dans la paracha de Devarim, chapitre 1, verset 27. « Vateragnu be'ovalehem » Le verset dit que nous avons été vateragnou. Alors c'est un mot très bizarre. Resh gimel nun, vateragnou. Et on a dit, Hachem nous déteste, et c'est parce qu'il nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et Rashi commente, Houaya oev etrem. Non, mais Hachem, il vous aimait. Mais c'est vous qui le détestiez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les Juifs disent, Hachem, les Bnei Israël disent, Hachem nous déteste. Mais en fait, Hachem nous aimait. Mais pourquoi vous disiez qu'il vous déteste? Parce que tout simplement, c'est vous qui le détestez. Et en fait, lorsqu'on déteste quelqu'un, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, eh bien, on est souvent certain qu'il a les mêmes sentiments que nous avons envers lui. Prenons l'exemple, Reuven déteste Shimon. Il est certain que Shimon le déteste. Mais en fait, Shimon ne lui a jamais dit qu'il le détestait, il n'a jamais non plus fait ressentir. Mais comme on sait, Maïm Panim El Panim, que les cœurs de l'un correspondent à le cœur de l'autre, au ressenti de l'autre, donc j'ai l'impression, parce que je le déteste, qu'il me déteste. Donc là, c'est clair, nous dit Rashi. En fait, l'origine, et peu de gens savent cette explication, la Loshon Vateragnou, c'est quoi Vateragnou? C'est, nous dit le Rabbeinu Yonah dans Sharei Tshuva, c'est ce qu'on appelle le Nargan. Qui c'est le Nargan? Qui pense que tout le monde lui veut du mal. Que tous ceux qui lui, même ceux qui lui font du bien, ils se disent ouais, ils me font du bien, mais c'est en fait parce qu'ils ont des intérêts, en fait ils me veulent du mal, mais ils ont un petit calcul. C'est quelqu'un qui est incapable de trouver chez l'autre, de juger l'autre d'une façon favorable, et il juge, même lorsque l'autre lui fait du bien, il pense certainement que c'est d'un calcul et qu'il lui veut du mal, en fait. Il n'est pas capable de reconnaître de l'amour que des gens l'aiment. Et comme ça vient d'où? Mais c'est où l'origine? C'est qu'en fait, lui-même déteste les autres. Comme il a ce sentiment envers les autres, il est sûr que les autres l'ont aussi envers lui. Et là, c'est incroyable. Les Juifs ont été sortis d'Égypte d'une façon incroyable par le passage de la mer, les Dimakot, la manne, le puits, enfin j'en passe. Et qu'est-ce qu'ils disent? En fait, Hachem nous déteste. Mais pourquoi ils pensent qu'Hachem les déteste? Parce que eux détestent Hachem. Et ça, cette incapacité d'aimer, de sentir l'amour d'Hachem, c'est à l'origine de tout le galout, l'exil et la destruction du second temple. Parce qu'en fait, le second temple, c'est vrai, c'est un problème relationnel entre les hommes, sinatrinam, la haine gratuite entre nous. Mais en fait, le cœur, c'est un seul cœur. Et celui qui aime, et celui qui sent l'amour, celui qui ressent l'attachement des autres, et celui qui aime les autres, eh bien, il ne connaît pas la détestation, la haine. Il ne connaît pas, c'est d'un mot qu'il ne connaît pas, la sina. Il pense que tout le monde l'aime, lui il aime tout le monde, et tout simplement il vit dans un monde tout à fait magnifique. Mais il y a d'autres personnes qui sont incapables d'aimer, incapables de ressentir l'amour des autres, et ils voient tout simplement tout autour d'eux que des ennemis potentiels ou réels, etc. Et tout ça, tout simplement, c'est un défaut profond qui est à l'origine de toute notre destruction du peuple juif. Même ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez très bien que Rabbi Akiva dit que c'est klal gadol la Torah, c'est un principe général dans la Torah. Mais c'est vrai que c'est un principe qui régit les relations que j'appellerai horizontales, c'est-à-dire entre un homme et son prochain. Mais en quoi ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, peut-il régir, peut-être à l'origine des relations entre un homme et Dieu? Quel rapport? Mais en fait, dit Rashi, de la même façon que le mot « re'acha » désigne la relation horizontale entre un homme et son prochain. Elle également, le mot Re'acha est tout à fait bien utilisé dans le Michelet chapitre 27 à propos de Dieu. Et nous, Re'acha, c'est ton ami, c'est Hachem qui t'aime. Hachem, il était notre ami. Ça veut dire que cette capacité d'aimer, de ressentir l'amour, de donner l'amour et de le ressentir, bien tout simplement, c'est notre premier travail. Nous devons être capables de ressentir qu'Hachem nous aime. Combien de gens se plaignent et disent « Dieu, il m'aime pas, Dieu, il m'a puni, Dieu, il m'a fait ceci, Dieu, il m'a fait cela. » Ils sont toujours en train de voir et de râler, d'avoir des prétextes pour considérer que Dieu les aime pas. Donc, mais en fait, c'est parce qu'eux n'aiment pas Dieu. Et en fait, la Torah nous demande « Ve'ahavta et Hashem Elokecha », tu aimeras Hashem ton Dieu. Il faut tout faire pour montrer et pour développer l'amour pour Hashem. C'est pas facile d'aimer. Comment est-ce qu'on peut aimer Hashem? C'est compliqué des fois d'aimer Hashem. C'est des sentiments, on a du mal à commander nos sentiments. Alors Rabbi Akiva Eiger, qui est très connu dans le monde des yeshivot parce qu'il est toujours dans la profondeur de l'étude, d'analyse très fine des Gemarot et de Rashi, de Tosot, etc. Et bien Rabbi Akiva Eiger dit, c'est la raison pour laquelle chaque juif, avant de dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, le fameux passage du Shema, le premier chapitre du Shema, avant de lire ce chapitre, on lit une bénédiction. Ahavat Olam Ahavtanu. Tu nous as aimés d'un amour de toujours, Olam. Et on décrit combien Hashem nous a aimés en nous donnant la Torah, en nous sortant d'Égypte. Et donc lorsqu'un homme se répète Hashem lui-même, Hashem nous a aimés, Hashem est notre ami, eh bien, lorsqu'on pense que, alors, tout simplement, on ressent l'amour d'un autre pour nous, même si au départ on ne l'aime pas, on finit par l'aimer. Parce que tout simplement, son amour est communicatif et finalement, on finit par l'aimer. Alors ici, c'est tout le sujet. Est-ce que Hashem nous déteste ou Hashem nous aime? Et là, pourquoi ça s'appelle Bechia Shel Chinam, un pleur gratuit? Parce qu'on pleure pourquoi? Parce qu'on pense qu'Hachem veut notre perte. Hachem ne nous aime pas. Il veut nous amener dans le pays des Canaan pour nous livrer en pâture aux géants, à ces peuples puissants qui habitent au Canaan. C'est n'importe quoi. Mais ça vient de quoi? Du fait qu'on n'aime pas Hachem, qu'on n'a pas cet amour pour Hachem que nous devrions avoir. Et lorsqu'on n'a pas d'amour, vous savez, un cœur, il reste jamais indifférent. Soit il aime, soit il déteste. Et lorsqu'on n'aime pas, on ne fait pas des actes d'amour, eh bien finalement, s'installe à la place des sentiments tout à fait contraires. Donc on nous demande à Ahavat Olam, rappelez-vous combien Hachem il t'aime, développe l'amour pour Hachem et surtout chasse cette approche des explorateurs de ne pas être capable de percevoir l'amour d'Hachem parce que c'est à l'origine de tous les exils, de toutes les destructions. Et moi je pense que c'est dans la généralité aussi dans nos relations avec les autres. Il y a des gens qui tout le temps parlent des gens qui leur en veulent et des gens qui leur ont fait ci et des gens qui leur ont pas fait ça. Ils sont entourés d'ennemis, de gens. Il y a des gens qui disent mais non, tout le monde m'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et franchement, même si des fois c'est un peu naïf, des fois c'est même des fois, il vaut mieux être naïf et se tromper dans ce sens que de se tromper dans le sens contraire. De voir que des gens qui ont des calculs et qui ont une pensée méchante et une pensée de travers. Non, développons l'amour de l'autre et après nous trouverons chez l'autre que des signes d'amour. Par contre, si nous laissons notre cœur un peu en libre, eh bien il va développer la haine, la haine d'autrui, et finalement on découvrira qu'on pensera que tout le monde nous déteste. Ça, c'est ce qu'on appelle le nargan. Donc rappelez-vous, relisez s'il vous plaît le début de Devarim, chapitre 1, verset 27. On rappelle la faute des explorateurs dans Devarim. Et vous retrouverez ce Rashi incroyable qui nous dit qu'en fait, Hachem nous dit, vous me détestiez, c'est parce que vous ne m'aimez pas que vous avez soupçonné Hachem de vous aimer, de vous détester aussi. Mais Hachem, il vous aimait, donc vous avez pleuré pour rien. Eh bien, un jour, vous pleurez pour une bonne raison, parce que vous pleurez la destruction du Beth Amikdash, qui lui aussi va être détruit, pour les mêmes raisons, vous ne serez incapable d'aimer l'autre et de voir chez l'autre des choses positives. Voilà un petit peu le message que je voudrais transmettre à la communauté, être capable d'avoir une vision positive de l'autre, d'aimer l'autre, pour pouvoir tout simplement voir chez l'autre beaucoup d'amour, et dans un monde d'amour, eh bien, tout simplement, le monde serait bien meilleur. Mais surtout, nous ne laissons pas entraîner par le regard des meraglim qui ont toujours, dans les attitudes d'Hachem, un regard négatif. Des fois, Hachem, il nous fait des épreuves, effectivement. On n'a pas toujours la vie facile. On a des fois des moments difficiles. Mais toujours, jugeons favorablement Hachem et sachons que ce qu'il nous fait, c'est toujours pour notre bien, même si on n'a pas toujours la lecture et la traduction de ce qui se passe tout de suite. Soyons patients et comprenons que peut-être que tout de suite, on ne comprend pas. Mais il n'y a aucun doute. Ce qui nous arrive, c'est toujours, toujours pour le bien et c'est Hachem qui le fait et parce qu'il nous aime.
On va essayer. Moi, un jour, je regardais, j'ai une photo de Tzadik à la maison. Je regardais la photo, des fois, je voyais, il était content. Mais je le faisais vraiment, hein, comme si j'étais un enfant. Ah, il est content aujourd'hui. Puis après, Je sais pas, mais c'est inconscient. On parle pas à des photos chez nous, Chas Véchalin. Mais voilà, je me disais, ah ben non, mais là, il est en colère. Et heureusement qu'un jour, en adulte, je me suis dit, mais ben là, tu te rends compte quand même que cette photo, elle a pas bougé. Hein. je veux dire, c'est toi qui es content ou pas, quoi. Tu trouves que ce que t'as fait, t'es bien, et tu te dis que la photo, elle a changé, alors qu'elle n'a pas changé. Voilà. Rav Gay, je vous remercie. Et, ouais. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je voudrais vous faire deux petites annonces. La première, on se retrouve dimanche, place du Trocadéro, pour dire notre solidarité avec Israël. C'est le 75e anniversaire de l'État d'Israël. On est attendus nombreux, nous tous, pour un grand concert populaire, familial, qui sera donné place du Trocadéro. C'est toute l'après-midi. On passe au moment où on a envie de passer, évidemment. Disons que ça commence vers 13-14 heures et c'est prévu de durer jusqu'à 18 heures. Donc une après-midi festive pour les 75 ans de l'État d'Israël, un concert qui est totalement gratuit, avec notamment Michel Fugain, Enrico Macias, je ne peux pas citer tout le monde. Ça c'est la première chose, c'est peut-être la plus importante. Et puis la deuxième, c'est que je vous retrouve à 18 heures pour un journal enregistré.